Auparavant, Enid devait venir réveiller son fils à 7 heures du matin afin qu'il se prépare pour l'école. Désormais, elle trouvait l'enfant déjà éveillé, couché sur le tapis du salon, devant le dictionnaire ouvert. À chaque fois, elle lui demandait depuis combien de temps il était levé. La réponse ne différait jamais. « Je ne sais pas. Je préférerais que tu dormes, mon chéri. Tu en as besoin. J'ai encore plus besoin des oiseaux. Tu les connais tous maintenant. Non, il y a aussi ceux qui ne sont pas dessinés. Et puis, ce n'est pas seulement pour les découvrir. C'est d'abord pour être avec eux. » Une voisine a pris la passion du fils du cuistot pour les oiseaux. Elle proposa au petit de venir chez elle, voir son canari. Déoda retourna chez lui en proie à l'indignation la plus forte. « Maman, Johnny est dans une cage. Madame Bouton est un monstre. » « Les gens qui ont des oiseaux les mettent forcément dans une cage. Sinon, ils s'enfuient et ils meurent. Le climat d'ici ne leur convient pas. Alors il faut les ramener dans leur pays. Ce n'est pas possible. » L'enfant demeura longtemps prostré, incrédule. Le sadisme de ses congénères le révulsait. Enid, qui était sur le point d'acheter des bengalis en guise de cadeau de Noël pour son fils, éprouva un profond soulagement à l'idée d'éviter une erreur pareille. Elle se procura dans une librairie « Les oiseaux du monde » publié chez Bordas. Et ce fut ainsi que, pour le Noël de ses 6 ans, Déoda reçut le livre qui devait lui tenir lieu de Bible. Le guide répertoriait d'abord les 99 espèces de non-passereaux avant d'explorer les 74 espèces de passereaux. Taxinomie pour le moins bizarre, mais qui ne perturba pas le jeune lecteur. Cette classification absurde s'expliquait sans doute par le fait que, pour la plupart des gens, l'amour des oiseaux correspondait en réalité à l'amour des passereaux. En effet, comment ne pas éprouver de tendresse envers les mésanges, les fauvettes, les bouvreuils et les rouges-gorges ? Déoda les adorait, mais pas plus que les rapaces ou les colombidés. Il découvrit ultérieurement que les psittacidés et surtout les palmipèdes étaient pour beaucoup d'humains des sujets de moquerie. Ainsi, des cutéreux s'autorisaient à tourner en dérision d'aussi nobles familles. Il n'en revint pas. Décidément, il n'y avait pas de limite à la bassesse des hommes. Qui a vu la splendeur d'un escadron d'oies sauvages ne peut que s'incliner devant ces aristocrates du ciel. Les oies n'étaient pas les seules victimes de l'imbécile mépris humain. Déoda apprit qu'une grue était synonyme de femme vulgaire, qu'un canard renvoyait à une grande variété de comparaisons grotesques, comme sa malheureuse cousine la dinde. Il poussa plus loin son étude et trouva quelque soulagement en constatant qu'il s'agissait surtout d'un vice de la langue française. En anglais, la dinde s'appelait Turkey, ce qui lui valait la référence due à la sublime porte. En japonais, le canard se nommait Kamo, ce qui sonnait proche de la divinité, et la grue, qui portait le beau nom de Tsuru, était carrément l'objet d'un culte. Il y aurait une thèse à écrire sur le besoin qu'a éprouvé le français de ridiculiser ces animaux splendides. D'instinct, Déoda soupçonna que la jalousie devait y avoir joué un grand rôle. Depuis le siècle de La Fontaine, on sait que susciter l'envie porte malheur, en France plus qu'ailleurs. En compensation, le fameux film d'Hitchcock, qui s'intitulait du nom même de son obsession et qu'il vit sans tarder, ne le choqua pas. Ni haine ni mépris dans les oiseaux, rien que la haute conscience de la prépondérance du règne ailé. Oui, si les oiseaux le voulaient, ils détruiraient facilement l'espèce humaine. Raison de plus pour s'émerveiller, non pas de leur bienveillance, ce n'était pas le mot juste, mais de leur noble indifférence à l'homme. Déoda décida de s'inspirer autant que possible de cette attitude envers ses condisciples. Les enfants de sa classe étaient, comme tous les autres, irrécupérables. Cela n'en faisait pas des démons, ils ne méritaient aucun châtiment. Il fallait seulement qu'il apprenne à vivre comme les oiseaux vivent, pas avec les humains, mais parallèlement à eux, à quelques mètres d'eux. Même quand un moineau mangeait dans la main d'un homme, il demeurait entre ces deux règnes une distance infranchissable, ce qui sépare une espèce qui vole de celle qui rampe. L'enfant qui vénérait sa mère éprouva le besoin de savoir si elle aimait ses élus. « J'aime les oiseaux, » dit Enid, « mais pas plus que les chevaux ou les éléphants. Les oiseaux sont magnifiques, mais ils ne sont pas très attachants. » Déoda réfléchit avant de répondre. « Ce que tu dis est vrai. » Et c'est aussi pour ça que je les aime si fort. Toi qui es si tendre, toi qui ne perds pas une occasion de m'embrasser. Oui, toi, j'ai besoin de t'aimer comme ça. Mais l'amour pour les oiseaux est différent et tout aussi indispensable. Enid regarda son fils avec l'admiration perplexe qu'il ne cessait de susciter en elle. Un enfant de 7 ans qui tenait de tels propos, c'était quelque chose. On lui avait fait passer les fameux tests. Son quotient intellectuel de 180 laissait présager tout ce que l'on voulait. Pourtant, Enid savait que son fils valait bien mieux qu'un surdoué. C'était un génie. Il créait ses propres lois, indifférent au paradigme convenu de l'intelligence. Les examinateurs lui avaient demandé, à titre de vérification, si l'enfant s'ennuyait à l'école et se montrait insupportable en classe. Elle avait aimé les détromper. « Il est très sage. Il regarde par la fenêtre. » Déoda avait fait ce constat. Il n'existait pas de fenêtre d'où l'on n'apercevait pas au moins un oiseau. Il plaignait ceux qui se passionnaient pour les chevaux, les poissons ou les serpents, car cette loi de la fenêtre ne fonctionnait pas avec ces espèces. À la réflexion, la loi de la fenêtre ne fonctionnait qu'avec les oiseaux. Les insectes disparaissaient l'hiver. De tous les animaux sauvages, l'oiseau était le seul que l'on côtoyait au quotidien, chaque jour de l'année. Les uniques lieux où il était rare de les voir étaient la pleine mer et les déserts. Ils coïncidaient avec les endroits où l'on croise peu d'hommes. Cette observation suggérait que l'oiseau était, pour ainsi dire, le frère noble de l'homme. Sa présence perpétuelle rappelait à l'espèce humaine ce qu'elle aurait pu être si elle n'avait cédé à la curieuse séduction de la pesanteur. Il s'agissait d'une fraternité morganatique. Aucun risque que l'oiseau partage ses privilèges aristocratiques avec l'humanité. Mais celle-ci pouvait à tout instant lever les yeux vers le ciel et rêver à la vie de celui qui osait voler. L'envol relevait forcément de l'audace. À l'origine, aucune espèce ne volait. Un jour, il y a des centaines de millions d'années, une bestiole avait non seulement conçu ce rêve inédit, mais aussi tenté de le réaliser. On repense avec une émotion justifiée aux pionniers de l'aviation. Se souvient-on des premiers animaux qui ont risqué leur vie dans cette expérience insensée? À cette époque, il y a bel et bien eu un choix. L'homme appartient à l'espèce qui a choisi le sol. Une aristocratie en entraînant une autre, celui qui avait choisi le ciel avait également inventé le chant. Si l'on peut imaginer un stade archaïque du langage, où la musique ne se dissociait pas du sens, c'est grâce à l'oiseau. Il faut le pauvre cerveau humain pour créer une théorie comme celle de l'art pour l'art. Le merle et le rossignol savent, sans le formuler, que la catégorie du seulement beau est une ineptie, et d'ailleurs qu'elle n'existe pas. S'ils chantent à un tel degré de beauté, c'est pour assurer le plus immense essor à la délivrance. Ce que dit le chant du rossignol, le plus inspiré, c'est qu'il n'y a pas de limite au sublime, ni à l'émotion qu'il peut susciter. Ce qui émouvait Déoda, c'est que tous les chants des oiseaux n'étaient pas beaux. Certaines espèces magnifiques avaient un cri atroce, comme le héron ou le jais. Le cas du héron était particulièrement pathétique. Peu d'oiseaux ont à ce point l'apparence d'un prince, qu'il soit en vol ou au sol. Que le parler de ce prince ressemble au raclement de gorge d'un scrofuleux donnait du grain à moudre aux fables rapportant le ramage au plumage. C'était cela aussi que Déoda prisait dans cette jante. Les oiseaux, pour sublimes qu'ils fussent, avaient leur incohérence, leurs tentatives ratées, leur bizarrerie. Ils ne s'ennuyaient jamais en les observant. Ils constituaient un règne avec ce que cela suppose d'intrigue, de héros et de bouffons. De l'antique Archéoptérix à la futuriste Sternartic, du folklorique gypaète barbu, à l'incongru Ticodrome échelette, du coucou sans gêne au pélican oblatif, de la linotte simplette au technologique pic et pêche, tous les rôles étaient représentés. De même que le féru de littérature ne peut se résoudre à avoir un seul livre de chevet, Déoda était incapable d'avoir un oiseau favori. Comment choisir entre la chouette effraie? Quoi de plus déchirant que son cri? La sarcelle d'été, cette démarche si gracieuse, la buse variable, cette manière de se figer dans le ciel avant de fondre. La citelle torche-peau, l'humour avec lequel elle escaladait à l'envers, le roitelet, son volume de rocher suchard, la poule d'eau, quelle jolie bestiole, la tourterelle turque, ce regard si doux. Chaque fois qu'il découvrait dans le bordas une nouvelle sorte d'oiseau, il en sautait de joie. Quand je les aurais rencontrés en vrai, je pourrais peut-être en préférer un, pensait-il. Déoda avait conscience de son handicap. Être un enfant de 7 ans, citadin de surcroît, ne lui permettait pas d'aller observer ces merveilles dans leur habitat. Pour autant, il observait ce que Paris mettait à sa disposition, les pigeons et les piafs. Ces derniers le ravissaient. Les moineaux, petits moines sautillant des trottoirs, hôtes légers du pavé, à l'impertinence gouailleuse, crèvent la faim à l'affût de l'aubaine. Ils étaient les jeunes gens de Paris. Et les moinettes étaient les jouvencelles parisiennes, fières de leur minceur invétérée. Quant aux pigeons, le mépris dont ils étaient l'objet les identifiait clairement aux Parisiens vieillissants. Était-ce leur faute s'ils prenaient de l'âge, du ventre et des manières un peu lourdes ? Vieillir à Paris engendrait plus de vexations qu'ailleurs. Encore heureux qu'il y ait des compensations. La joie avec laquelle le pigeon chie sur un monument le console du dédain des coquettes et des rafles de la police. Dans les parcs parisiens, Déodat put observer la noirceur sans concession des corneilles et le long de la Seine, des mouettes qui affectaient, comme certains provinciaux, d'être nés là. « Il n'est bon bec que de Paris », semblait-elle dire. Villon l'avait déjà compris. Les oiseaux, comme les autres, subissent l'attraction parisienne. Il n'empêche qu'il tardait à l'enfant non pas tant de voler de ses propres ailes que d'aller observer ailleurs les espèces innombrables du règne aviaire. Verrait-il un jour, de ses propres yeux, l'accenteur mouchet, la frégate et le bruant hudsonien ? Pourrait-il se remplir l'âme du spectacle d'une migration de Bernache ? Même le vautour, presque aussi détesté que la hyène, suscitait sa sympathie. Il comprenait les peuples qui livraient leurs cadavres à ce nettoyeur rapide. À l'école, la passion ornithologique du garçon n'eut pas d'influence sur sa réussite scolaire, mais le rendit à sa solitude originelle. Les parents furent convoqués. « Votre fils, qui avait beaucoup d'amis au CP, n'adresse plus la parole à ses anciens camarades. Vous êtes au courant ?»« Assez pour savoir que c'est son choix. » Déodat est supérieurement intelligent, et il le sait. Il ne faudrait pas l'encourager dans cet isolement méprisant. Ce n'est pas du mépris. Notre enfant ne pense qu'aux oiseaux. Vous comptez faire de lui un ornithologue ? Nous comptons le laisser décider de sa vie. C'est dommage, quand même. Un tel cerveau pourrait trouver meilleur emploi. Glacé, Enide coupa court à l'entretien et entraîna son mari hors du bureau du proviseur. Quel pauvre type, celui-là ! Tu as raison, ma chérie. Nous ne raconterons rien de cet échange aux petits. La vérité était que Déodat avait d'abord voulu se prouver que son intégration parmi les enfants était possible. Mais dès qu'il n'en avait plus douté et qu'il avait pu constater le peu de valeur d'une camaraderie, il s'était détourné de toute vie sociale. La contemplation du moindre moineau de la cour lui apportait tellement plus que la fréquentation de ceux qui, après l'avoir appelé Déodorant, ne le nommaient plus autrement que l'enfianté.